ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Philippe Jarry. Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, c'est avec grand plaisir que je suis là.
Oui, vous avez fait votre carrière dans l'aéronautique pendant 40 ans. Vous êtes animateur liturgique, accompagnateur de jeunes dans les pèlerinages VTT et ATZ. Mais vous êtes écrivain surtout. C'est pour ça peut-être, entre autres, que je vous ai demandé de pouvoir témoigner de votre foi, de votre engagement. Surtout que votre dernier livre, c'est « Élise voudrait croire ». 26 conversations. Entre qui et qui, alors ?
26 conversations que j'ai pu tenir avec des lycéens et des lycéennes. Bon, ils ont entre 17 et 18 ans. Ils passent 8 jours à Thésée. Et j'ai essayé de saisir au vol les questionnements qu'ils avaient. Et plutôt que les envoyer à réfléchir, à regarder un catéchisme et autres, essayer tout de suite de leur donner des pistes. Parce que leurs questionnements sont vrais et importants. Et je les ai rassemblés dans un livre.
Voilà, mais c'était votre quatrième. C'est votre quatrième dans la mesure où avant, ce qui vous a intéressé, c'est la foi sous l'arbre de Judée. On va peut-être parler davantage de ce livre-là aujourd'hui, puis peut-être ou sûrement vous reviendrez. Oui, il s'agit d'interroger les dogmes, hein, parce que depuis votre enfance, vous êtes un questionneur.
Peut-être, oui, c'est vrai, vous dites ça, mais effectivement, dans ma famille, avec mes parents, autour de la table familiale, on parlait beaucoup, on posait toutes les questions. Et également, ce titre de mon premier livre de spiritualité, Sous l'arbre de Judée, c'était un arbre qui était dans le jardin de mes grands-parents. Et c'était l'arbre au pas d'arbre de la famille. Et donc, il y avait toujours cette circulation des questions et des réponses proposées, des questionnements qui continuaient. Et bien, on est enfant, puis on est adolescent, puis on est adulte, puis on mûrit, et puis on commence à vieillir. Et le questionnement ne finit pas, heureusement.
On est les mêmes, mais on change. Surtout que dans votre famille, vous avez parlé de circulation, mais quand on est officier de l'armée de l'air, comme votre papa, eh bien, on change tous les 2 ans. Donc, nos points de repère, nos références par rapport à nos amis, à la ville, tout ça, ça change beaucoup. Et heureusement, il y avait votre maman qui était là pour accompagner.
Oui, maman, c'était un peu le cœur de la maison qui changeait presque tous les 2 ans. Donc, on passait d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une grande ville à une toute petite ville. Il fallait se faire les copains très vite. Il fallait s'habituer aux différents accents. Ça nous a donné du fil à retordre, mon grand frère et ma petite sœur. Mais on était habitués à ça et peut-être que c'est finalement une force que nous avons reçu, dont nous avons hérité, s'adresser à des gens différents, chaque fois dans des milieux différents, des atmosphères différentes. C'est une grande qualité de vie, c'est une grande chance finalement.
Surtout, votre maman savait à la fois accueillir lorsqu'il s'agissait de tenir un rôle important dans des repas ou des soirées, j'allais dire mondaines, non, des soirées où elle savait être à la fois simple et intentionné, m'avez-vous dit?
Oui, simple et attentionné. Elle disait « Moi, j'aime les gens ». Et tous les invités le savaient bien. Et mon père laissait, pouvoir le dire, d'excellents souvenirs dans le milieu professionnel. Et maman, les gens la gardaient dans le cœur pour la personne qu'elle était. Voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents comme Pierre et Madeleine. Et voilà, je suis vraiment un peu leur produit, quoi, si on peut dire ça comme ça.
Et vous transmettez, mais vous avez, je dis mais parce que vous avez 5 petites filles qui sont adoptées, adoptives.
Oui, alors c'est en fait peut-être la très grande question que j'ai à propos de la foi, c'est la question de la transmission. Est-ce qu'on transmet la foi? Qu'est-ce qu'on transmet? Est-ce que la foi se transmet? Je n'en suis pas sûr. On y reviendra. Alors cette question, effectivement, de la transmission, il se trouve qu'avec mon épouse, nous sommes mariés depuis 41 ans, mon épouse Imelda, bon, nous n'avons pas eu d'enfants, mais il se trouve que dans les activités que j'ai eues, notamment dans les PLE, des jeunes filles, il se trouve que ce sont des jeunes filles, en général d'âge lycéen ou un peu plus, m'ont abordé en disant, au bout de quelques jours, est-ce que vous ne voudriez pas être mon grand-père adoptif. Évidemment, quand on reçoit une question comme ça de la part d'une jeune fille de 16-17 ans ou plus, c'est pas imaginable de dire non. Alors je leur disais, écoutez, je n'ai pas eu d'enfant, donc je n'ai pas de petits-enfants, donc je ne sais pas trop où ça va nous mener. Ce que je sais, c'est que la merveille d'avoir 5 petites filles adoptives qui ont entre 18 et 25 ans, toutes différentes, Claire, Alexia, Claire, Bérénice et Pauline, c'est une merveille depuis bientôt 7-8 ans pour les premières.
Et il y en a une que vous avez accompagnée comme postulante puis regardante dans le monastère bénédictin.
Tout à fait, elle m'a fait cette demande le 23 décembre, c'était pour le 23 décembre de l'an dernier. Elle devait rentrer pour 6 mois à l'essai dans son monastère et elle avait souhaité que ce soit moi qui l'accompagne, ce qui a été une route faite ensemble assez impressionnante, de la conduire jusqu'à son monastère et donc se présenter à la mère supérieure en disant « ben voilà, c'est moi le grand-père adoptif de Claire ».
Habituellement, c'est le beau-père qui tient la main, ou plutôt le bras de la mariée. Et là, c'est une forme de noce mystique et qui vous a comblé de joie.
Ah oui, c'était joie et émotion. Et puis, il y a toujours aussi un moment de rire ou d'éclat de rire quand la mère supérieure m'a dit « Ah, je suis content de voir que vous êtes en bonne forme physique pour un grand-père parce que votre cellule est au premier étage et il n'y a pas d'ascenseur ». Donc nous avons bien ri, et voilà, il fallait sans doute ce petit moment court de détente.
Mais parfois, il n'y a pas que le soleil, il y a aussi un peu d'ombre, et vous rencontrez des questionnements qui vous rendent muet, perplexe, ou alors vous vous trouvez engoncé, vous dites peut-être trop souvent, dans un cadre que vous dites rigide. Et ça, c'est la deuxième partie de notre entretien, parce que vous êtes engagé aussi dans un certain nombre de mouvements qui essayent de faire du neuf, ou qui essayent d'apporter les fleurs de l'amandier, ou bien le comité improprement appelé de la jupe, mais des baptisés de France. Je crois que certains catholiques vous comprendront. Mais avant d'y revenir, je voudrais que vous reveniez à votre carrière de pilote et de très scientifique dans l'industrie aéronautique. 40 ans.
J'ai travaillé effectivement 40 ans dans l'industrie aéronautique. J'avais eu la passion de l'aviation tout petit puisque mon père était pilote. Et les avions, c'est fascinant. Et donc, je voulais travailler dans cette industrie-là, mais n'étant pas ingénieur, puisque je suis économiste et juriste, finalement, j'ai fait une carrière où j'ai accompagné les grands programmes aéronautiques dont tout le monde parle aujourd'hui, les moteurs d'avion civils les plus vendus au monde.
États-Unis, puis Toulouse.
Voilà, et puis les avions Airbus où j'ai passé 30 ans. Et ensuite, ayant pris ma retraite à 61 ans, eh bien des entreprises canadiennes, françaises, ou japonaises, ou brésiliennes m'ont demandé de travailler pour eux. Et donc, j'ai continué mes tours du monde. Voilà, et donc j'ai voyagé beaucoup dans le ciel. Et
le ciel, c'est le mystère.
Le ciel, c'est un peu le mystère.
C'est l'inconnu.
Oui, alors c'était un mystère pour les hommes il y a très 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 longtemps. Maintenant, c'est beaucoup moins un mystère, le ciel, tel qu'on le voit. Hein.
Et vous avez rencontré Dieu, vous? Pas comme Dierman Titov, le deuxième cosmonaute russe.
Ah, le deuxième cosmonaute russe, c'est
athée,
vrai.
Athée plus qu'agnostique.
Athée par construction.
Matérialiste.
Matérialiste. Il était le deuxième cosmonaute russe en 1961. Et effectivement, quand il est rentré de son vol d'une journée, il a dit « Là-haut, je n'ai pas vu Dieu ». Bon, normal. Et quelle différence avec cet astronaute américain qui est un de ceux qui ont posé le pied sur la Lune. On lui disait « Mais c'est extraordinaire ». L'aventure à laquelle vous avez participé, l'homme a marché sur la Lune. Et il avait dit, mais ce qui est extraordinaire, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, c'est que Dieu soit venu marcher sur Terre. Ça, j'avais été frappé par la beauté de cette réflexion.
Et c'est le chant que vous nous avez apporté de Thésée, Jésus, lumière intérieure, cet homme qui s'est fait... Ben, oui, qui s'est fait l'un de nous.
Qui s'est fait l'un de nous et qui est venu dans nos ténèbres nous montrer la lumière et nous dire « Regardez cette lumière, vous êtes fils de lumière, restez fils de lumière. »
Nous l'écoutons. Jésus.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui, Philippe Jarry, vous êtes animateur liturgique, accompagnateur de jeunes Pélé, VTT et Thésée, et vous êtes aussi écrivain. Alors, ce chant de Thésée, vous nous l'avez déjà un peu présenté, mais il est pour vous preuve que Dieu vous parle. Jésus vous parle.
Absolument, mais Dieu parle au cœur de tout homme. Et on nous dit bien, bon, si votre cœur est ouvert, je viendrai faire ma demeure. Et c'est ça qui donne l'espérance chrétienne, en fait. Hein. Même si on peut être affligé de voir une régression dans le nombre de croyants en Jésus-Christ.
Ou de pratiquants.
Ou de pratiquants, bien sûr.
C'est autre chose.
Voilà, mais il y a des pratiques intérieures qui sont sûrement manifestement des éveils très, très beaux. Mais oui, Jésus parle, il me parle et il sort pour semer tous les jours.
Cette mais vous dites qu'il n'y a pas de testament, qu'il n'y a pas le Nouveau, l'Ancien Testament. Et pourtant, vous réfléchissez cette rupture dans l'histoire ou dans la théologie?
Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est les mots Ancien Testament et Nouveau Testament. Pour moi, les testaments, c'est transmis par quelqu'un de mort qui vous demande de faire quelque chose.
C'est l'alliance.
C'est quelque chose qui est imposé. Et en fait, c'est peut-être l'anglais, que j'ai beaucoup pratiqué par mon métier, qui m'a mis sur la piste avec le mot « testimony », qui est le mot « témoignage ». Et personnellement, je fais référence à l'ancien témoignage et au nouveau témoignage. Je crois que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est le témoignage d'un peuple qui cherche Dieu, à sa façon.
Une quête. Une quête d'inspiration à travers les âges.
Absolument.
Mais vous dites, et aujourd'hui ? Et
voilà,
aujourd'hui.
C'est une succession d'aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas intéressé par les morts qui m'auraient laissé un testament, mais je suis intéressé par les vivants qui me laissent un témoignage vivant.
Que vous transmettez.
Et j'aimerais le transmettre, et j'aimerais qu'on me le transmette aussi. Et donc, je cherche cette transmission, et je m'interroge beaucoup sur la transmission. Est-ce qu'il y a des liens naturels qui font la transmission facile ? Et là, il y a un épisode de l'Évangile qui me frappe beaucoup, c'est l'apôtre Thomas. Parce que je vois dans beaucoup de familles des parents qui sont apitoyés ou des grands-parents désolés de voir que ça ne suit pas dans la génération suivante ou les générations suivantes, comme si la foi s'était en allée de leur famille et ils s'en sentent responsables. J'aime bien leur faire remarquer que Thomas, dont le nom signifie « jumeau », et c'est pas juste par hasard qu'on nous donne la signification d'un prénom. Thomas avait donc un frère jumeau, et à mon avis, c'était un jumeau parfait.
Ou c'était lui-même, alors, dans l'ambivalence
à mon avis,
de sa quête.
Il avait un jumeau
et
parfait.
De doute.
Il avait un jumeau parfait. Et le drame de Thomas, c'est que son frère jumeau n'a pas suivi Jésus. Et Thomas, il a devant lui Simon et André, deux frères. Ils ne sont pas jumeaux, mais ils ont suivi tous les deux. Jacques et Jean, deux frères, ils ne sont pas jumeaux, et ils ont suivi tous les deux. Et lui, Thomas, son frère jumeau, son autre pareil, son autre même, n'a pas suivi. Et pour moi, c'est une indication que la foi, elle est avant tout personnelle. Elle ne peut être que personnelle.
Mais vous êtes théologien, écrivain. Et alors, aujourd'hui, je crois que la liturgie faite Nicodème, Jésus est mort. Il n'a plus qu'à l'embaumer. C'est fini.
Alors Nicodème, c'est un des personnages que j'aime beaucoup rencontrer. Voilà, la chance de l'Évangile, c'est qu'elle vous fait rencontrer des gens. Et il y a le témoignage de Nicodème. Nicodème, c'est d'abord une rencontre un soir où ça ne va pas bien. Et je pense que cette rencontre m'attriste beaucoup. J'imagine la peine de Jésus quand il dit à Nicodème, « Comment ça se fait, Nicodème ? Tu es un sage en Israël ?» Et tu ne comprends pas cela. Et pour moi, c'est une alerte.
C'est-à-dire il a un peu peur, Nicodème. Il a peur du qu'en dira-t-on.
Il a peur du qu'en dira-t-on, mais surtout, même tout son savoir de savant, de pratiquant, finalement, c'est comme si ça l'avait bloqué et qu'il ne pouvait pas comprendre la révélation du Père par le Fils. C'est terrible. Et ça, c'est une alerte pour nous. C'est-à-dire que on risque d'être aveuglé par beaucoup de choses. Même notre pratique, si elle est routinière, si elle est uniquement rituelle, elle peut nous aveugler. On croit personnellement. La foi est personnelle et elle doit être remise en questionnement tous les jours. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Et pour moi, le mot essentiel du christianisme, c'est aujourd'hui.
À
le
partir Christ... des Écritures ?
Oui.
Ou du regard des autres, dans la charité ?
D'abord par la parole de Dieu. Le mot essentiel du Christ, d'abord le Christ s'adresse personnellement à chacun de ses interlocuteurs et il lui parle au présent. Que fais-tu ? Suis-moi. Et toi, que lis-tu ? Que
oui,
crois-tu ?
Notre raison est attaquée. La foi et la raison, c'est sans cesse le dialogue.
Absolument, absolument. Et c'est bien là, j'allais dire, la grande question qui est posée à l'Église, l'Église de chaque jour, l'Église qui doit être celle d'aujourd'hui, puis demain, ça sera un autre jour, il faudra que l'Église soit présente aussi dans ce jour nouveau, c'est comment être comprise, comment être écoutée par l'homme d'aujourd'hui. Chaque aujourd'hui, l'homme change, l'humanité change. Je ne suis pas un homme du 12e, ni du 15e, ni du 16e siècle, ni même du 19e. Je ne suis même plus l'homme que j'étais il y a 40 ans, ou il y a 60 ans, ou il y a 20 ans. Et donc, la parole m'est adressée telle que je suis, à l'âge où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, où on fête Nicodème. Et ce Nicodème, effectivement, il va lui falloir faire un effort sur lui-même pour comprendre ce qu'on est en train de lui dire dans cet aujourd'hui. Et puis un jour, qui sera un autre aujourd'hui, il va ensevelir le Christ. Et ça, cette fois-ci, c'est lui qui souffre.
Avec Joseph d'Arimathie.
Avec Joseph.
Qu'on fête aujourd'hui.
Qu'on fête aussi, aujourd'hui. Ils sont rassemblés tous les deux. Et c'est pour ça que je vois dans l'Évangile, non pas un nouveau testament, mais un nouveau témoignage. Et ces deux hommes que je n'ai jamais connus, que je ne peux qu'imaginer, dont j'essaye de m'approcher en essayant de comprendre ce qu'ils ont entendu, compris et souffert dans leur questionnement. Et puis j'espère qu'ils ont vu la résurrection et qu'ils ont été comblés. Ces témoignages-là m'aident à vivre aujourd'hui ma foi.
Et
ma
vous
foi
transmettez à ces lycéens et ces lycéennes qui, comme Élise, voudraient croire. Mais encore un mot, parce que vous êtes exégète, vous êtes profondément nourri par l'Écriture, et vous resituez le contexte du judaïsme. Et nous parlons avec nos frères juifs, nos ancêtres, nos grands frères, nous avons trop tendance à les voir comme ils étaient il y a 2000 ans, comme s'ils n'avaient pas évolué. Tout ce mois-ci, nous allons avec eux, ou certains, fêter Yom Kippour, ou bien le don de la loi, et puis Tishri et toutes ces autres fêtes que nous aurons l'occasion sur cette antenne d'évoquer, parce que trop souvent, nous pensons que ce sont les pharisiens, les juifs morts d'il y a 2000 ans. Donc la vie, elle est dans cette transmission et sans cesse une adaptation du message.
Mais ils continuent à vivre, ils continuent leur chemin.
Bien sûr.
Ce que l'on peut leur souhaiter, d'abord, c'est qu'ils aient un chemin, qu'ils vivent de façon heureuse. Car c'est quand même ce que Dieu veut pour ses créatures. Il veut que ses créatures soient heureuses. Qu'elles entrevoient Dieu. Alors peut-être pas aussi simplement que le saint patron que mes parents m'ont choisi, Philippe l'apôtre, qui dit à Jésus, au bout de quelques années de vie commune, montre-nous le Père, ça me suffit, quoi. Et Jésus le reprend en disant, mais Philippe, mon pauvre, tu es là avec moi depuis si longtemps et tu me demandes ça, mais qui me voit le Père. Et donc, c'est ça, en fait, la question, c'est d'abord comment se fait-il que tous les Juifs n'ont pas compris, n'ont pas pu voir, alors qu'ils avaient Jésus devant eux, qui passait devant leur maison, qui passait devant leur ville, qui dînait chez le voisin. Enfin, c'est terrible. Et en même temps, on ne peut que souhaiter qu'ils soient des croyants heureux.
Alors, nous avons souvent de fausses images de Dieu. On peut dire, le Seigneur est ma lumière et mon salut, mais en fait, nous parlions de ce groupe des fleurs de l'amandier. Vous êtes engagé dans ce mouvement de revisitation ou en tout cas d'actualisation de la parole dans l'Église.
Tout à fait. C'est à cause de ce mot aujourd'hui. Je pense que notre foi chrétienne nous appelle à être toujours aujourd'hui présent à aujourd'hui. Et j'ai vu dans l'amandier et les fleurs de l'amandier, c'est un très très joli nom d'ailleurs, une émergence de quelque chose de nouveau. Et on s'émerveille de l'amandier justement, qui est le premier à fleurir et de nous donner un signe. Et bon, ce groupe finalement s'est manifesté suite à la parution d'un livre. Et effectivement, ça peut être un ferment de réflexion et de partage, et j'espère de construction heureuse au service de l'Église, c'est-à-dire au service de l'annonce de la parole, puisque finalement, je crois que l'Église n'a qu'une seule finalité, et chaque membre de l'Église n'a qu'une seule finalité, c'est celle de montrer la direction en disant « Voilà l'agneau de Dieu, voilà celui qui enlève le péché du monde, comme Jean-Baptiste l'avait fait, en acceptant que ses disciples le quittent pour qu'ils aillent vers l'autre qui était vraiment le Messie de Dieu. »
Malgré la crise, nous pensons, nous sommes sûrs, il y a cette espérance qui fait que les fruits passeront la promesse des fleurs. Et c'est notre combat de tous les jours.
Ah oui, vous avez raison de dire qu'il y a effectivement un chemin entre la fleur et le fruit. Et effectivement, l'Évangile est, j'allais dire, c'est un panier de fruits.
Mais on ne le fait pas tout seul, on est avec les autres.
Voilà.
Et vous êtes à Toulouse, nous avons écouté le père jésuite Jean-Luc Fabre, nous avons écouté Anne Rebout qui nous en parlait des sept pour faire le neuf. On ne peut pas se sauver tout seul.
Absolument. Il faut...
Un dialogue.
Il faut cheminer. Et ça aussi, c'est un témoignage que nous donne le peuple hébreu. C'est un peuple qui chemine. Ce ne sont pas des gens isolés. C'est un peuple qui chemine. On a besoin les uns des autres.
Vous nous avez apporté le psaume qui vous est cher, celui qui nous fait monter au ciel, mais celui aussi qui est le signe que Dieu nous parle à travers toutes ces années, tous ces siècles, et que nous prions avec nos frères juifs, et nous avons de semblables pensées dans le Coran, parce que c'est une ouverture à l'universel.
C'est le psaume 139. « Seigneur, tu me sondes et me connais. Que je me lève ou que je m'assoie, tu le sais. Tu me devances et me poursuis. Tu m'en sers, tu as mis sur moi ta main. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au-delà des mers. Même là, ta main me conduit. »
Merci pour cette prière. Merci Philippe. À bientôt.
Merci pour votre accueil.
Et Élise pourra croire.